Bonjour et bienvenue sur les lives de MO5. Nous sommes ce soir en direct sur Twitch avec des invités prestigieux pour parler d'un projet qui nous tient à cœur avec des amis de l'asso. Je vais commencer par présenter mon co-animateur de choc, Bruce. Comment ça va?
Salut Seb, salut à tous, salut au chat. Bah, ce premier live de la nouvelle saison de Live MO5.
Ouais.
Bah, on commence avec du beau monde, tu vois. Je te laisse continuer à nous
On commence,
présenter, mais
ouais. On
c'est.
commence avec du lourd, en effet, ce soir, puisqu'on va parler d'un projet de film qui s'appelle Démo, et nous recevons ce soir deux membres de l'équipe qui s'occupent du film. On va et de tout ce qui tourne autour du film, mais on va en parler un peu plus tout à l'heure. Donc, on accueille donc Alex Pilote, le
Salut.
réalisateur de Démo, et Étienne Perrin,
Salut.
qui, pour dévoiler un petit peu son rôle dans le film. En fait, c'est un film qui parle, je vais faire 2 secondes, parce qu'Alex en parlera beaucoup mieux que moi, un film qui parle de démo makers qui se mettent à développer leur propre jeu vidéo. Et le jeu vidéo en question, enfin, c'est un poil mieux que ça, mais en grosso modo, c'est le jeu vidéo en question qui date, tout ça, pardon, dans les années 90. Et le jeu vidéo en question, ou du moins un prototype, est développé par Étienne Perrin, ici présent. Salut Étienne.
Salut.
Donc, ouais, on est super content de vous recevoir parce qu'on a bah, Alex. Avec MO5, on se connaît quand même depuis plusieurs années. Il y
De
a
longue
eu
date.
de longues, longues dates. On a eu des projets en commun, notamment entre No Life et MO5.
Oui, la centième de chez Marcus.
La centième de chez Marcus. On a vraiment. Ouais, et donc, on a été super contents que tu nous contactes pour qu'on puisse. Organiser ce live ici. Et il y en aura aussi un autre sur un autre sujet. La Paris Games Week, tu vas venir nous rejoindre sur notre stand. Et on en parlera peut-être à la fin. Donc, bah écoutez, messieurs, je pense qu'on va commencer par vous demander de vous présenter un petit peu, puisque il y a encore probablement quelques personnes qui ne vous connaissent pas forcément. Donc, on va commencer par toi, Alex.
Oui, avec plaisir. Donc, moi, mon parcours, c'est ça. J'ai commencé en fait à la télévision à Game One. Donc, mon rôle était testeur de jeux à l'époque. Je faisais des tests de jeux vidéo import. Faut se souvenir que c'était en 98, donc au début de la chaîne. À l'époque, les jeux import, c'était un vrai truc, hein. Dans tous les magazines, il y avait une rubrique import parce que c'est là où on voyait les jeux du futur. Il y avait tellement de temps entre le moment où ça sortait au Japon et le moment où ça arrivait en France que,
Parfois
bah
un
voilà,
an,
c'était.
2 ans.
Ouais, parfois 1 an ou 2. Et puis, il y avait aussi beaucoup de gens, beaucoup d'aficionados. Alors, j'adore le mot aficionados, même s'il est dur à prononcer. Il y avait beaucoup d'aficionados qui jouaient en japonais, hein. C'était pas du tout. C'était très courant à l'époque. C'était pas rare du tout. Et
Bon, faut être calme.
donc.
Ah ouais, moi j'ai fait plein de RPG sans rien comprendre.
Voilà, la preuve. Et donc, j'ai fait de plus en plus de reportages, de documentaires. J'allais au Tokyo Game Show. Ensuite, j'ai monté une petite boîte de production avec mon ami Sébastien Ruchet, qui s'appelait Pocket Chami. Donc, notre rôle, c'était de créer des documentaires autour du jeu vidéo, surtout japonais. Et puis, un jour, en 2007, voyant qu'on n'arrivait plus trop à placer nos créations, nos envies d'émissions, de reportages, de documentaires, on n'arrivait pas à trouver preneur. On s'est dit, on va lancer notre propre chaîne. Ça s'appellera No Life et ce sera une chaîne comme on aime. Voilà. Et donc, on a pu faire ce qu'on voulait et c'était très cool. Voilà.
Nickel. Ah, écoute, merci pour cette
Merci.
présentation en quelques minutes. Si vous voulez en savoir plus sur Alex, je ne peux que vous recommander le podcast d'Erwan Cario, Silence on joue, qui a fait aussi une émission avec Alex. Et toi, Étienne, donc toi, tu développes un jeu vidéo, donc on peut
C'est
se dire
ça.
que tu es développeur de jeux vidéo.
Bon, oui, bah voilà, ça fait moi ça fait 20, plus de 20 ans que je suis dans le jeu vidéo. Je suis graphiste au départ, mais aujourd'hui je bosse plus beaucoup en indé ou sur des. J'ai toujours été sur des toutes petites prods. Enfin, rare, jamais été chez des Ubisoft ou dans des trucs géants comme ça. Et bah voilà, je viens, moi je viens de l'Amiga, du CPC, tout ça. J'ai rencontré, bah, j'ai connu Alex Parr en voyant Game One en étant jeune. Et après, on s'était pas mal rencontrés à l'époque où j'avais fait Zorbier sur iPhone.
Téléphone, c'est ça, je m'en souviens.
Zorbier et Jauge aussi. Et c'est à cette période qu'on s'était un peu rencontrés et aussi que j'avais du coup déjà à l'époque fait une deuxième version du générique de Retro and Magic, qui était une sorte de melting pot de références à plein de jeux et de plein d'époques différentes. Donc, bah, on en parlera mieux après du jeu, mais l'exercice d'essayer d'imiter un style d'époque, j'ai déjà un peu fait avec Alex, et du coup, je pense que c'est peut-être aussi pour ça qu'il est venu me chercher. Voilà.
Ah ouais, c'est clair, c'est clair. Donc bah, je vous propose de commencer à parler de ce magnifique projet. Est-ce que
Vas-y,
tu peux,
discuter.
est-ce que Alex, tu peux nous donner le nom complet, parce que je voudrais commencer
Ah
par le
oui.
nom complet de ton projet.
Avec le sous-titre
Alors,
du nom du film.
bah le film, le nom complet, c'est Démo, hein, tout court. Mais sur la page Ulule, j'ai rajouté un film double face, double densité. Voilà, c'est
Voilà.
ça que vous vouliez entendre. Mais oui,
Et
parce que.
oui, et pourquoi? Qu'est-ce que tu avais
Vous
derrière la
avez la
tête,
ref,
justement?
j'imagine.
Bah bien
Ouais.
sûr, mais est-ce que c'est bien, est-ce qu'on pense bien la même chose? On pense
Oui,
bien
bah,
à la disquette.
il y a une grande disquette qui est sur l'affiche. Et à l'époque, les disquettes pour Atari Amiga étaient double face, double densité, contrairement aux disquettes PC qui étaient double face, haute densité, si je ne dis pas de bêtises. Et donc, du coup, ça me faisait marrer de reprendre cette accroche que j'avais lue tellement de fois sur les boîtes de disquettes. Et puis, je trouvais ça rigolo de dire qu'un film, il a deux faces et une double densité, ça veut dire qu'il sera forcément génial. Voilà. Donc, ça me faisait marrer, ouais.
Ouais, il faut se rappeler qu'au tout début des disquettes, des lecteurs de disquettes, peut-être même avant les 3 pouces et demi, peut-être les 5 pouces un quart, il y avait des lecteurs de disquettes avec une seule tête de lecture. Et donc, les disquettes avaient des données sur une seule face.
Tout à
Puis,
fait.
ils ont commencé à écrire sur les deux faces. Donc, il fallait, dans ce cas-là, retourner la disquette pour pouvoir lire l'autre face un petit peu comme les cassettes audio avant l'invention de l'autoreverse. Puis ils ont mis deux lecteurs
Deux
de
têtes
tête
de
de lecture dans
lecture.
le lecteur, ce qui permettait de ne plus avoir besoin de retourner. Et ils ont aussi travaillé sur, comme le nom l'indique, la densité, c'est-à-dire le nombre de données qu'on peut mettre au millimètre carré. Et ils ont réussi à doubler, passant au début de 360 à 720 kilo-octets. Oui, pour les plus jeunes d'entre vous, je parle de kilo-octets. Et sur Amiga, par exemple, les disquettes double densité faisaient 800 kilo-octets. Mais la disquette la plus connue, je pense, un peu celle qui fait office d'icône de sauvegarde. Maintenant, dans beaucoup de logiciels, et parfois on se demande si les gens savent que c'est une disquette, mais c'est la disquette PC 3 pouces et demi qui faisait 1,44
Oui,
mégaoctets. Ça,
ça c'est
c'était.
celle qui est restée. Elle a fait 720 kilos à ses débuts.
Oui, exactement,
Alors,
exactement.
ouais. Et justement, là, en fait, on est dans cette époque où, moi je me rappelle au Bahut, on s'échangeait toutes ces disquettes-là. Parce que, on peut le dire maintenant, mais les logiciels et les jeux, on se les repassait comme ça. Et c'est vrai qu'avoir un film qui est basé là-dessus, ça va faire ressurgir un bon nombre de souvenirs pour la plupart d'entre nous, du moins pour la génération qui a maintenant, on va dire, entre 45 et 55. Voilà, c'était une époque où il y avait que la disquette finalement pour pouvoir stocker nos données. Et c'est vrai que ouais, le Alex, là, au niveau du visuel de l'affiche, c'est l'affiche définitive, ça, du film, ou c'est juste
Non, non.
encore.
Non, alors l'affiche du film, c'est. Imaginez que je devais avoir un visuel pour faire la page Ulule, pour promouvoir le film, mais je n'ai pas encore fait le casting. Moi, je n'ai pas encore mes comédiennes, mes comédiens, j'ai personne. Le film n'est pas tourné. Donc, j'ai pas de bande-annonce, pas de visuel. Donc, du coup, j'ai justement un collègue à Bobby Pills, où je travaille, qui a une magnifique montre Casio vintage d'époque.
Oui.
Je lui ai dit, écoute, est-ce que tu veux bien qu'on fasse une photo ensemble? Donc, on a pris la photo avec la disquette. Il a gentiment joué le jeu. Et j'ai mis derrière une image de la GEMTOS, une convention spéciale Atari ST. Alors, évidemment, à cette convention, il n'y a que des gens qui ont entre 40 et 50 ans. Donc, j'ai essayé de faire en sorte que. Parce que dans mon histoire, évidemment, c'est les démos parties, les gens, ils ont plutôt entre 15 et 20 ans. Hein.
Bah
Donc,
oui.
voilà, ce n'est pas
Il
tout
faut
à fait la
remettre
même
dans le contexte.
génération. Donc, j'ai essayé de. Voilà, que ça ne se voit pas trop, quoi.
Ouais.
Ah oui, justement, je me disais bien que, étant donné que tu postes beaucoup de photos que tu prends et tu les mets sur Blue Sky, j'allais te demander qui était la personne. Et là,
Eh bien, il
tu
s'appelle Quentin et magnifique modèle main pour la disquette. On
Oui.
sent qu'il y a de l'acting, hein, il est décidé, quoi, il a envie de faire une
Ouais.
démo, ça se sent.
Ouais.
Il faut bien avouer qu'il a un très très bel ongle du petit doigt gauche, hein.
Ouais.
Même qu'il est un peu fou, là, mais.
Voilà, mais donc a priori, on va avoir une affiche plus conventionnelle, enfin en tout cas une affiche qui explique plus le film quand on aura tourné le film. Ouais.
Ok. Et justement, par rapport à comment t'es venu, justement, tu nous disais que le film s'est prévu donc pas pour l'année prochaine. Et comment a surgi cette idée de vouloir faire un long métrage? Ça devait te trotter dans la tête depuis un moment. Et qu'est-ce qui t'a décidé et motivé à vouloir réaliser ce film? Et puis surtout aussi de faire appel au financement participatif.
Alors, ça fait bien longtemps que j'ai ce projet dans ma tête. J'ai saoulé tous mes amis avec depuis des années en me disant, ah, on va faire ça va être génial et tout. Et ça a mis du temps à se mettre en route. Mais au moins, voilà, maintenant je suis prêt. Hein. J'ai eu le temps d'y penser en long, en large, en travers. Pourquoi un film? Parce que moi qui ai fait beaucoup de documentaires, je sais exactement ce qu'on peut obtenir avec un documentaire. Et là, sur ce film-là, j'aimerais vraiment qu'on ressente les émotions que ressentaient les personnages à l'époque. Si on interviewe quelqu'un qui a vécu ces moments-là, qui était développeur de jeux ou démosigneur, il va expliquer, il va dire oui, à l'époque, ça se passait comme ci, ça se passait comme ça. Je me souviens, j'étais très impressionné quand j'ai vu ça. Mais c'est un témoignage, mais c'est pas la même chose que de le vivre vraiment. Et donc, avec un film, avec le langage du cinéma, on peut vraiment, en tout cas, c'est le but, faire vivre ces émotions à nos spectatrices, à nos spectateurs. Moi, je dis toujours, j'ai envie de les faire pleurer avec un overscan. Est-ce que c'est possible? On verra, hein, mais c'est le but, en tout cas.
C'est très beau.
Voilà.
Donc, ouais, donc du coup, t'as commencé, disons que pour essayer de donner une idée un acte concret, est-ce que tu te souviens quand est-ce que tu as écrit par exemple, les premiers mots du scénario ou de, je sais
Oui,
pas, est-ce que
c'était
tu as.
juste après. Oui, tout à fait. C'était juste après Message d'outre-espace. C'est un moyen métrage que j'ai fait pour le box Blu-ray de France 5. C'est la première fois que j'utilisais des caméras modernes, enfin des caméras mirrorless, comme on dit, on peut changer d'objectif et qui sont hyper. Aujourd'hui, elles sont hyper avancées, elles sont très 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 cool, très intéressantes. Et après avoir fait ce court métrage, ce moyen métrage, je me suis dit, mais maintenant c'est bon, on a la techno pour faire un film. Il faut absolument que je me lance, quoi. Et donc, du coup, j'ai commencé à écrire des choses à partir de ce moment-là. Et j'ai eu beaucoup d'aide d'ailleurs. Hein. Il y a plein de personnes qui ont gentiment accepté de jeter un petit coup d'œil sur ce que j'avais gribouillé, me faire leur retour. Et du coup, ça m'a permis de bien développer l'histoire. Donc là, j'ai un synopsis d'une dizaine de pages. Donc je sais ce qui se passe dans le film. Je n'ai pas encore le scénario complet, c'est-à-dire la continuité dialoguée avec chaque dialogue. Ça, je voulais le faire après le financement parce que c'est trop triste de faire tout le scénario et que le financement se foire et qu'après on se dit bah maintenant bah voilà, on va pas le faire. Donc du coup je me gardais la suite pour après le financement, et donc dès que le financement est bouclé, je pourrais m'atteler à cette tâche. Voilà.
Ouais, nickel, nickel. Est-ce que tu veux. Alors, je sais que C'est toujours compliqué. Tu vas pas pouvoir citer tout le monde, mais est-ce qu'il y a déjà des gens que tu as, j'imagine que tu as dans ton viseur pour t'aider à faire le film?
Alors, le piège, il y a tellement de personnes. Alors, je vais sur la page
Ouais,
Ulule. Qui
parce que
vois-je?
tu dois pas être tout seul en fait.
Oui, bah, avant de lancer le Ulule, je me suis assuré que j'avais une équipe qui était prête à participer au projet. Donc, il y a déjà une première équipe, c'est ce qu'on appelle l'équipe jeux vidéo, dans laquelle fait partie Étienne. Mais il y a aussi Cyril Lambin, qui est sur le chat, sous le nom de Fenarin Arsa, qui lui est codeur. Il y a aussi Mickaël Robert, avec qui Étienne a souvent travaillé, qui est directeur artistique dans l'animation. Il a notamment été directeur artistique sur la première saison de Last Man et sur Mars Express. Julien Pirou, qui est développeur de jeux, qui a bossé beaucoup à Ubisoft. On lui doit notamment Might and Magic Legacy. Et Simon, qui est frère avec Étienne, ils sont tous les deux frères, et qui lui aussi a beaucoup travaillé avec Étienne sur Zorbia par exemple, mais il travaille à Dotemu, il a fait les graphismes sur Windjammers 2, il a fait Dungeon of the Endless notamment, donc il est aussi dans le milieu du jeu vidéo depuis longtemps. Et cette fine équipe a pour rôle de créer des jeux vidéo, comme à l'époque, parce qu'on voulait que nos personnages dans le film, ils vont faire leur jeu vidéo. Ben, il faut bien qu'il y ait quelque chose à l'écran. Et on ne voulait pas faire un faux jeu vidéo fabriqué avec After Effects qu'on animerait puis qu'on incrusterait sur l'image. On voulait un jeu jouable, en plus des jeux en plusieurs versions, version bêta, enfin version en développement, version plus avancée. Et donc, pour faire ça, donc on fait appel à cette équipe de gens confirmés et talentueux qui vont nous faire un truc incroyable. Et j'ai aussi réuni une petite équipe pour ce qui est du tournage, tout ce qui est image et son. D'abord, je peux parler rapidement de Tibor Clairdoué, un vieux collègue de longue date avec qui on a fait France 5 notamment, qui lui s'occupe vraiment de tout ce qui est le mécanisme de l'association pour récolter les fonds, faire les dépenses, les achats, etc. Donc c'est une aide énorme et il est très bon pour faire ça. Et puis, dans l'équipe, on retrouve Pierre Mogard, qui est aux effets spéciaux. Pareil, c'est un collègue qui vient de l'époque de France 5, qui a fait énormément de FX pour France 5, mais il en a fait aussi pour Message Outre-Espace. Il a fait aussi des habillages pour No Life. Les derniers habillages de 101%, c'est lui. Le générique de fin de No Life, à la fin de la chaîne, c'est lui aussi. Il y a Clément Morin, qui était ingénieur du son à No Life. Angela, qui était réalisatrice, monteuse, journaliste à No Life également. Jonathan Aranega, qui lui aussi vient de No Life, qui est lui aussi réalisateur, cadreur, monteur. Céline, qui est notre maquilleuse attitrée sur No Life, Message Outre-Espace, qui va revenir nous rejoindre. Olivier, qui va s'occuper de la lumière, que j'ai rencontré plus récemment. En fait, il était venu sur un des tournages de France 5 en tant qu'à l'époque étudiant. Il faisait un reportage étudiant pour son école, c'était l'ESRA. Et on s'est recontacté assez récemment, il y a 5-6 ans, quoi. Et depuis, on bosse ensemble et il va faire partie de l'aventure. Il y a aussi une équipe pour les musiques. Je peux aussi faire l'équipe des musiques. Donc, on
S'il
a
te plaît, oui.
Emery Clevardon, pareil, avec qui on a beaucoup bossé à No Life, qui a un excellent. Lui aussi un excellent monteur, réalisateur au niveau image, mais il est aussi musicien et il compose pour un groupe qui s'appelle Hollywood Burns. Et il a fait des musiques évidemment pour France 5, pour Message Outre-Espace. Ça fait et aussi pour No Life Les Aventures, le jeu vidéo qu'on avait sur No Life et d'ailleurs dont Simon a fait les graphes. Ensuite, El Mobo, la légende El Mobo, qui est lui, il s'appelait Moby à l'époque, il vient carrément de la Démocine, lui. Donc il est ultra légitime. Il va participer au projet et lui, en tant que connaisseur, parce qu'il a vraiment connu cette époque, on a Yannick Roth, qui est c'est le fameux compositeur qui a remasterisé toutes les musiques des Cités d'Or. Je ne sais pas si vous avez entendu de ce délire, mais les musiques des Cités d'Or ont disparu, les masters ont été perdus, il reste uniquement un 33 tours. Donc il y a une dizaine de morceaux qui existent, et tous les autres morceaux qu'on entend dans la série, et il y en a au moins une soixantaine, hein, c'est énorme, ils ont été perdus à jamais. Et ben Yannick, il a tout refait au synthé, à l'oreille, il écoute les épisodes, il refait les morceaux et il fait ça avec un soin, c'est assez incroyable. Bon voilà, c'était pour donner le background du gars. Il est capable d'acheter des synthés de l'époque et ensuite d'aller sur eBay pour acheter les disquettes avec les sons de l'époque pour retrouver les sons qu'ils utilisaient sur la musique. Donc bon, c'est un truc de fou et le résultat est dingo. Et donc lui aussi va composer pour les films et bah, pareil, il a fait plein de génériques pour No Life, pour France 5 et pour Message du Trespace. En fait, c'est mon équipe, hein, c'est oui. Ceux qui me
suivent.
Olivier qui lui aussi, j'espère, je dis pas de bêtises, il a participé un peu à des démos quand il était jeune. Et on lui doit le générique de Message du Trespace notamment, et Jean qui est le leader du groupe Mustang, qui avait fait une chanson pour la fin de Message du Trespace et qui dans ce film aussi devrait nous faire un morceau. Et puis après il y a tous les gens qui participent, il faut aussi que je fasse la liste de tous les paliers.
Mais ça, on va y revenir.
Non, on va y revenir.
On va parler du justement vu que tu parles de l'équipe et notamment de l'équipe qui s'occupe de la campagne de financement participatif, allons-y, parlons de cette campagne. Pourquoi Ulule, parce qu'il y en a plein, c'est français.
Ah ouais. Et puis ouais. Déjà, attends, juste, je me permets, Alex, c'est que t'as dû te dire, avec tout ce monde-là et avec tout le projet que j'ai à faire, il va me falloir des sous.
Oui.
C'est ça.
Et
tu t'es dit, forcément participer tout de suite.
Non, pas du tout. Au début, je me suis dit, je vais aller voir des producteurs, ils vont trouver ça trop bien, et on va avoir un super budget, on va faire un film qui va sortir au cinéma, ça va être trop cool. Et ben, pas du tout. J'ai trouvé personne que ça intéressait, mais alors, chaque fois que je présentais le projet, mais ça les intéressait tellement pas, mais tellement pas.
Je me permets de demander, t'en as vu beaucoup? T'as une idée du nombre?
Non, j'avoue, j'ai pas fait le tour de Paris.
Non, c'est pas simple de les rencontrer, hein, déjà.
Ouais. J'en ai vu au moins 4-5. Donc, il y a peut-être d'autres personnes qui auraient été enthousiastes. En tout cas, les personnes que j'ai rencontrées, ça n'a pas du tout percuté. Et au bout d'un moment, je me suis dit, la vie est courte. Moi, je commence à vieillir. J'ai encore plein d'énergie. Si j'attends, quoi, j'attends encore 5 ans pour essayer de trouver quelqu'un qui est OK, mais j'aurais peut-être plus envie dans 5 ans. Aujourd'hui, il existe le financement participatif. On peut peut-être faire quelque chose avec ça. En plus, il se trouve que je connais des gens, j'ai déjà une équipe autour de moi, je n'ai pas besoin d'un producteur pour me trouver un directeur photo ou un ingé son. Tous ces gens-là, je les connais. Et puis moi, je sais faire aussi, je sais filmer, je sais monter. Donc, tout mis ensemble, on se dit, on va faire un financement participatif. Donc, c'était le plan B. voilà. Et donc, c'est ce que j'explique un peu dans la vidéo, quoi. D'ailleurs, ça a été fait pour ça, les financements. Ouais.
Justement, cette vidéo dans laquelle, donc c'est une vidéo de présentation de ton projet.
Elle est trop bien. Hein. Je sais pas si je te l'ai dit, Alex, mais elle est trop bien. ton court métrage de truc, il est vraiment. Ouais. Je pense que c'est. Tu m'avais dit avant de mettre le truc en ligne. J'essaie de le faire bien, mais je trouve que ça marche trop bien.
C'est gentil parce que à la fin, j'en pouvais plus. Moi, je pouvais plus le voir cette vidéo. En plus, c'est ma tête dans la vidéo, donc je ne sais pas si vous êtes déjà monté vous avec votre. Enfin, c'est horrible de se monter, de se voir, de voir tous ses défauts pendant des semaines. C'était l'enfer. Donc, j'étais bien content de quand j'ai terminé cette vidéo, et je suis content que ça vous plaise. Du coup, c'est top. C'était quoi la question? On parlait.
Pardon.
Non, du coup, c'était pour dire que effectivement. Pour illustrer en quelque sorte le projet de cette campagne sur Ulule, vu que c'est une campagne pour faire un film, tu as décidé de faire, je crois que c'est 9 minutes, je ne sais pas, c'est encore un court-métrage, c'est un moyen-métrage.
Non, 4 minutes 30, je crois, oui, c'est court. Hein.
Donc, à 9 minutes, c'est peut-être le debug, je ne sais plus. Donc voilà, c'est un court-métrage.
C'est plus long que la moyenne, parce que sur Ulule, ils conseillent de... il conseille de faire moins d'une minute trente, hein, je crois, pour la vidéo. Ah, ouais. Mais moi, j'ai prendre un peu le temps. Ouais.
Si j'ai bien compris de ce que tu as dit chez nos autres copains comme Patrick Béja ou Erwan Cario, tu voulais aussi que ça fasse, que tu montres un peu tes capacités, de quoi tu étais capable avec cette vidéo pour donner confiance au potentiel backer.
C'est un peu ça. C'est vrai que dit comme ça, c'est pas comme ça que je l'ai vraiment pensé, mais oui, c'est pas faux non plus. Mais en fait, quand je l'ai fait, je me suis dit, C'est un peu paresseux. On est censé faire un film. Ils ont du mal pour faire quelque chose de bien. Et c'est un peu paresseux de se filmer devant un mur blanc comme là, il y a là et faire « Bonjour, je voudrais vos sous et je vais faire un film avec ça, s'il vous plaît. » Je trouve que c'est... Enfin, moi, si je tombe sur une page Ulule ou Kickstarter où il y a juste ça, alors que le projet, c'est pour un film, c'est pas grave si c'est pour autre chose. Hein, si c'est pour fabriquer des objets ou des livres, ça me dérange pas. Mais pour un film... Enfin, faut quand même montrer qu'on a envie, quoi. Voilà, c'était pour montrer que, ouais, on a envie de faire un film. Ouais.
Donc, vas-y, bro.
Ouais, non, Seb, t'en étais à justement, tu voulais un peu.
Pourquoi
voir,
Ulule j'ai pas répondu pourquoi Ulule.
Alors, ouais, vas-y, pourquoi Ulule, oui.
Donc, comme c'était un projet, j'ai pensé cette campagne pour mes compatriotes francophones. Et je me suis dit, bon, en France, il y a deux plateformes, Ulule et KissKiss. Et je connaissais un peu les deux, vu que j'avais participé à la campagne chez Florent Gorge pour Collector's Quest sur Ulule et une campagne pour le Making of de Mars Express sur KissKiss. Et du coup, j'ai choisi Ulule parce que je trouvais que le nom était plus mignon. Ulule, je trouve que ça sonne mieux. KissKiss Bang Bang, c'est un jeu de mots avec KissKiss Bang Bang, le nom d'un film. Voilà. Je trouve que ça manque d'imagination. C'est un peu vulgaire. Voilà, ça m'a pas plu. Et je me suis dit, s'ils n'ont pas trouvé un bon nom, c'est qu'ils ne doivent pas être. Voilà, c'est vraiment. Ça, voilà, ça tient à ça. Et je n'ai pas été déçu, parce que chez Ulule, il y a des gens qui s'occupent de toi, vraiment. Alors peut-être chez KissKiss aussi, hein. Je dis ça un peu en rigolant. Hein, voilà. Mais à un moment, il faut bien choisir. Quoi. Et donc, chez Ulule, effectivement, il y a des gens qui s'occupent de toi, qui te. Qui t'aide, quand t'as un problème, tu dis mais il est où ce truc, cette option, t'as une réponse dans la journée. C'est vachement rassurant en fait, surtout au moment du lancement, parce que quand on lance la campagne, on se dit si je me suis foiré, si y a un truc qui est pas bon, imaginons les gens ils veulent prendre tel objet mais ils y arrivent pas, ben au moins on sait qu'il y a quelqu'un qui est là et qui pourra corriger la page. Ça c'est vraiment génial quoi. Voilà. Ah, après, je suis sûr que chez KissKiss ils sont très bien aussi. Mais je dis ça un peu en rigolant. Voilà.
Et ça t'a pris ou ça vous a pris combien de temps pour préparer la campagne en amont ?
Trois mois peut-être.
Ouais, quand même.
Ouais. Un truc comme ça, ouais.
Ouais, quand même. Ouais, parce que je suppose qu'il faut présenter quand même un projet béton. Mm. Et puis toi, tu voulais aussi ce que laisser transpirer le projet soit béton aussi. C'était ça l'idée.
Oui, bien sûr, mais c'était pas non plus trois mois où je faisais que ça, quoi. Mais c'était à la fois préparer la page, travailler avec le graphiste, donc c'est Yannick qui fait aussi les musiques, le graphiste lui envoyait les éléments pour qu'il crée tout ce qui va être graphique sur la page, et puis prévenir tout le monde, c'est-à-dire que chaque fois qu'il y a un palier avec quelqu'un, il faut le contacter, lui dire ben voilà, j'ai ce projet-là, expliquer ce que c'est que le projet, lui demander s'il veut bien participer, expliquer qu'il va faire, et tout ça je voulais le faire avant, pas le faire pendant que ça roule, quoi. Je voulais être sûr que tout le monde était partant. Donc il y a eu beaucoup de choses comme ça. Bah, Étienne, je l'ai carrément interviewé pour la vidéo, pour la page de campagne.
Moi, c'est ce que j'allais rebondir un peu sur ce que tu dis. C'est trois mois, ça semble, c'est long pour. Enfin, ça te donne l'impression que c'est long, mais en fait, c'est une sorte de mini travail de pré-prod, j'ai l'impression, parce que du moment où tu es venu m'en reparler, tu étais déjà venu m'en parler l'année dernière, mais entre-temps, j'y avais pas plus réfléchi que ça, mais quand tu es revenu. Là, cette année, moi, ça m'a directement lancé. C'est moi qui t'ai proposé de faire des screenshots du jeu pour la campagne, etc. Bah, ça m'a mis le cerveau dans les rails, quoi, en fait. Pour moi, c'était une sorte de... Enfin, je pense, et pour un peu tous les gens aussi que tu auras contacté, ça fait partie de la prod, quelque part. Bon, il y avait le côté mettre la place. C'est pas le film, le Ulule, mais... T'as mis en place un truc, j'ai l'impression. Donc, ça, c'est lancer une machine qui coule, quoi. C'est pas du temps perdu du tout, moi, je pense. Mmh.
Oui, c'est ça. Oui, c'est exactement ça.
Ça structure, à minima, ça structure les idées.
Totalement. Mmh. Enfin, pour moi, ça m'a aidé. Hein. Parce que même les discussions qu'on a eues, bon, je pourrais en reparler mieux après, mais ça m'a fait réfléchir à comment j'allais appréhender le jeu pour le film, parce que tout à coup, je suis face à un truc où je dois réfléchir à un jeu où... Alors, il faudra que ce soit joué sur le plateau du film, Ça va peut-être être joué par des comédiens qui sont mauvais aux jeux vidéo, donc on va y aller, on va essayer de trouver des stratagèmes pour qu'ils crèvent pas tout de suite et que en fait les prix soient pas faisables. On va aussi peut-être réfléchir à un jeu où les niveaux sont faciles à choisir pour que ce soit dans la structure même du jeu, qu'en fait il y a un choix de niveau et que ce soit pas un jeu tout à fait linéaire. Enfin, voilà, ça m'a obligé à réfléchir en avance sur des trucs comme ça. Donc,
Alors, ce qu'on peut préciser aussi, Étienne, c'est que tu es allé très vite, parce que en réalité, moi, je t'avais proposé de commencer à travailler sur le jeu une fois que la campagne était terminée, fois qu'on était sûr que ça se faisait. Et Étienne m'a dit, oh ben, si tu veux, je peux au moins te faire un petit screenshot, comme ça, tu auras un truc à montrer, ça peut aider pour la campagne. Je suis, oui, ben, si tu veux, ce serait chouette d'avoir un screenshot. En fait, il a déjà fait une version jouable.
Non, mais la vérité, c'est que j'avais déjà développé un petit shoot'em up pour le jeu que je développe moi personnellement, et j'ai voulu faire un test rapide pour voir si je pouvais récupérer une partie du code que j'avais sur ce jeu pour voir si j'arrivais à rebalancer ça avec un autre habillage. Et après, il va y avoir plein de différences, hein, ça n'a rien à voir, mais oui, ça a marché. Du coup, c'était cool. Et voilà. Et effectivement, j'ai beaucoup d'avance par rapport. Enfin, ça donne l'impression que j'ai beaucoup d'avance. En vérité, il n'y a pas encore de jeu, il n'y a pas encore de niveau qui sont faits. Hein. Ils vont se faire. Mais là, il y a Simon qui va me rejoindre et on va réfléchir réellement à qu'est-ce qu'il y a dans le jeu. Et là, j'ai posé, moi, pour le moment, toute la structure du jeu, tout le côté fatigant à faire. Donc, tous les menus. Toute la structure, alors le jeu démarre là, on le termine là, le game over, il y a un marchand, tout ça c'est fait maintenant. Et là, les derniers trucs que je faisais, c'était faire des faux écrans de loading. Donc, pour dire un peu.
Ouais, génial.
Ben voilà, mais il n'y a pas encore de jeu. Réellement, il n'y a pas encore de jeu. Hein, faut le...
Oui, mais.
D'ailleurs, je voudrais quand même faire une précision, parce que c'est aussi ce que tu dis dans la campagne, sur la page de la campagne, c'est qu'a priori, ce sera pas des jeux complets. Il faudrait quand même que les gens se fassent peut-être pas de fausses idées.
J'avais peur que les gens comprennent qu'ils backent pour un film et pour avoir deux jeux vidéo avec. Mmh. Et donc non, nous on fait les jeux pour pouvoir les mettre dans le film. Alors évidemment, peut-être qu'après on va les rendre disponibles pour que les gens puissent jouer avec, c'est sûr. Mais j'avais peur que les gens s'attendent à ça, donc j'ai fait un disclaimer clair.
Je fais mon disclaimer, moi je suis un peu taré, et le jeu me motive, je compte le finir, après sous quelle forme et à quel degré, mais je ne fais pas ça dans le vide. Et après, j'exclus pas non plus... dans ma tête, parce que là, je le fais sur des contraintes à Atari ST, similaires à Atari ST, hein, je casse un peu les contraintes quand même. Mais je n'exclus pas non plus peut-être l'idée de me dire, non, ben, à un moment, je débloque le framerate, je le passe à 60, et là, c'est un jeu, voilà, et je verrai. Après, j'en ferai ce que j'en ferai, on verra. Mon but, c'est quand même que des gens puissent y jouer à un moment. Et donc, je cherche à cadrer quand même. Mais moi, je suis ce taré-là qui en fait beaucoup trop. Et en même temps, ça me fait du bien de faire un petit projet rapide, hein, comme ça, parce que ça fait 3 ans et demi que je suis sur un autre jeu et que je suis très content de faire. Mais là, ça, c'est une sorte de petite parenthèse agréable. Mais je pense que, par exemple, le projet Amiga, qui est quand même plus extrême parce qu'ils développent directement sur Amiga, enfin, ils vont faire un vrai jeu Amiga, eux. Oui, il ne faut pas s'attendre à voir un jeu complet de leur part, je pense.
Sur ce jeu-là...
Peut-être que Cyril va s'énerver. Hein.
Alors, sur ce jeu-là, c'est Julien Pirou qui fait le game design et l'histoire. Et donc, ce qu'il a prévu pour l'instant, c'est une expérience très resserrée, c'est-à-dire que c'est un jeu qui peut être terminé en 15-20 minutes, mais qui a quand même un début et une fin. Ah, voilà. Et ceci dit, il y a des jeux, par exemple SRAM, si tu sais exactement quoi faire, en 5 minutes, tu peux le terminer. Hein. Donc, c'est pas déconnant pour lui.
Ça se trouve, il va se dire le jeu dure 15 minutes, mais les gens vont y jouer. Et comme ce sera un jeu de l'époque, ils vont recommencer un milliard de fois parce que, oh putain, c'est hyper dur. Et en fait, le jeu durera 4 heures et ce sera un jeu narratif tout à fait OK.
Ouais, c'est possible.
Ouais, peut-être. Mais qu'est-ce que on va continuer à parler du jeu, mais avant, je voudrais revenir à la campagne Ulule, parce
Oui.
que Alex, t'avais défini, je veux dire, le projet sur 30 000 euros, et là, je viens de rafraîchir la page, on est à 88 915 euros. Est-ce que tu
Ouais.
t'attendais à autant de succès, à dépasser, on a
Ouais.
presque triplé la mise de base.
Oui,
Est-ce
mais
que tu
est-ce
t'attendais
que
à ça?
la mise de base est le montant qu'il te faudrait pour réaliser le film tel que tu l'imagines?
Voilà, bah effectivement, c'est une très bonne question. Moi, j'ai fait appel à mes senpais, mes amis les noobs, Fabien Fournier, Katsuka et Maliki, entre autres, et j'aurais demandé un peu leur avis sur la somme que je devais demander. Ils m'ont demandé de combien j'avais besoin. J'ai dit, ben voilà, il me faudrait 150 000 euros, ce qui ferait grosso modo 100 000 euros pour le film, une fois qu'on retire les contreparties et la taxe Ulule. Ils m'ont dit, non, tu peux pas faire ça, tu peux pas. Tu dois demander plus bas, être plus modeste, et ensuite, avec des paliers intéressants, essayer d'aller plus loin et motiver les gens pour dépasser ces paliers, pour atteindre ton objectif final de 150 000 euros. Et l'idée, c'est d'avoir une campagne dynamique, comme ça, d'arriver vite au premier palier et dire, allez, on y va, on passe au palier suivant, plutôt que d'avoir une campagne qui se traîne. Si on avait mis 150 000, aujourd'hui, on serait à 60% peut-être, et on serait pas à 60% parce que la campagne serait moins motivante, on serait peut-être à 40, parce que quand un backer arrive, imaginons qu'il connaisse pas bien notre travail, il arrive et il voit que le projet est déjà validé, il se dit, ah, bah, c'est bon, je back, je suis sûr d'avoir le truc. Alors que sinon, on se dit, bon, c'est quoi ce truc? Oh, ça, j'y crois pas trop. Enfin, voilà, c'est le jeu du crowdfunding, visiblement. C'est un peu comme ça qu'il faut la jouer, quoi. Donc, moi, j'ai fait d'accord, Sensei, je vais faire ça. Donc, j'ai suivi leurs conseils et je dois reconnaître qu'ils avaient bien raison. Par contre, le problème, c'est que si jamais on n'a que 30 000 euros, si on n'atteint que le premier palier, eh ben là, il faut avoir un plan pour faire quand même quelque chose. Et ça, c'était un petit peu effrayant. Donc, j'ai réfléchi à un plan B. Je me suis dit, bon, ben, on ne sait pas combien on va avoir. Si jamais on n'a que 30 000, qu'est-ce que je fais? Donc, j'avais une idée d'un film plus court, avec moins de décors, moins de personnages, que j'aurais pu faire en mode un peu guérilla, quoi, un peu à l'arrache. Mais je sais faire ça. Donc, j'avais quand même une solution. Mais évidemment, je suis très content qu'on s'approche plutôt vers le palier, voilà. Alors, je sais pas si on atteindra les 150 000, hein, je suis pas sûr, mais en tout cas, on est au-delà des 30 000.
Oui, parce que la campagne a commencé le 2 octobre. Et d'ailleurs, n'hésitez pas à backer puisque c'est jusqu'au 7 novembre prochain. Donc la
J'ai
campagne est
mis le
encore en cours.
lien. J'ai mis
Oui,
le lien dans le chat. Ouais.
merci. Et effectivement, les 30 000 euros, si je me souviens bien, ont été atteints en 14 heures, quelque chose comme ça.
Oui, c'est ça. Ouais. Ouais, c'est un super démarrage. Ouais, très chouette. Ouais,
Donc.
ça, j'avoue, je ne pensais pas. J'espérais très fort qu'en quelques jours, voire une semaine, on atteigne ce premier palier et qu'il nous reste 3 semaines pour ensuite développer la campagne, essayer d'aller plus loin. Mais alors, le premier palier en 14 heures, c'était super. Ouais, vraiment,
Ouais,
ça fait plaisir parce que
tout
au-delà
à
du
fait.
financement, imaginez, moi, pendant des années, tout le monde me disait non, 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 ce projet, non, non, non. Et tout d'un coup, il y a plein de gens qui disent oui. C'est super, ça, c'est hyper motivant, c'est génial, ouais, vraiment.
Et puis les bonnes surprises, c'est à chaque palier, il y a un nouvel intervenant qui va faire quelque chose. Alors, tu voulais, Seb, je ne sais pas si tu voulais qu'on passe l'intégralité des paliers en
Non,
revue
peut-être pas l'intégralité, mais
au moins les personnalités les
ouais,
plus.
le premier palier, c'est Médoc et Moguri qui vont faire les dialogues d'une scène, donc
Oui.
avec leur magnifique plume. D'ailleurs, ils sont dans le court-métrage.
Ouais, ils sont dans la vidéo.
Et ensuite, on a plein d'anciens journalistes de la presse écrite qui viendront tester le jeu. Alors, j'ai pas bien compris si c'est l'un des deux jeux, les deux, où ils vont
Oui,
choisir.
alors je n'ai pas précisé maintenant parce que j'ai envie de laisser les journalistes eux-mêmes choisir. Tu veux faire
D'accord.
le jeu Amiga ou le jeu ST? L'idée, c'est qu'ils se partagent un peu le truc et qu'il n'y a pas 5 fois le même test.
Bon,
Il pourrait y
nickel.
avoir 2 personnes sur le jeu ST, 3 sur le jeu Amiga. Peut-être que la quatrième va faire une interview des développeurs. On va réfléchir pour que ce soit un peu varié, que ça ne fasse pas trop redite, quoi.
Moi, ce que je peux juste dire, c'est que ça fout la pression, hein, parce que avoir des tests par ces gens-là, c'est waouh, je m'y attendais pas dans ma vie.
Et, ouais, et peut-être qu'ils vont saquer le jeu, c'est terrible, on va voir.
Ah, non, comme j'ai déjà dit, moi je vise le 98%.
98% minimum.
C'est une note médiocre pour l'époque. Hein.
C'est pas faux.
Oui, parce que pour, on peut les citer, hein, comme des gens comme Matt Murdock ou Marcus, qui vont faire comme à la grande époque de Player One ou de Tilt. Même Marcus, ouais. Il avait commencé à écrire dans Micro News, même. Oui. Ouais, voilà, donc c'est. Pouvoir relire ça, ça va être.
Et on va faire le souci du détail. On va faire des screenshots du jeu avec un appareil photo argentique pour avoir dans la maquette des photos comme à l'époque dans les magazines, un peu floues avec les grains argentiques d'époque. Ouais.
Ouais. Mais n'oubliez pas le voile noir ou le carton pour.
Oui.
Oui. Ouais. J'ai entendu parler de ces techniques. On va tester tout ça. Ouais. Mais eux, ils faisaient ça parce qu'ils faisaient ça dans la rédac. Ils ne pouvaient pas couper les lumières. Nous, je pense qu'on peut le faire dans une pièce noire. On n'a peut-être pas besoin de se fabriquer.
Fais gaffe parce que, Alex, te connaissant, tu dois faire des trop belles photos. Tu es beaucoup trop professionnel par rapport. Il va falloir que tu fasses ton genre d'être un peu.
Ah, on va choisir. Ouais, ok. On va faire exprès. On va rater la mise au point exprès.
Voilà. Il faut qu'il y ait des photos. Non,
d'ailleurs,
un peu...
d'ailleurs, question comme ça. Ton film sortira en HD ou alors il sera en qualité VHS comme à l'époque.
Alors, il y a quelqu'un qui m'a dit tu devrais faire dans ta campagne un palier avec des VHS. Putain, le boulot pour la blague.
Non, je plaisante.
Mais alors, c'est pas complètement une question inintéressante. Curieusement, il y a beaucoup de gens qui me disent bon, puisque ça se passe dans les années 90, on espère retrouver de l'image des années 90. Je fais ah bon? Parce que moi, quand je vois des films qui se passent dans les années 60, 70, qui sont faits aujourd'hui, en général, ils sont faits avec l'image. Je veux dire, un film qui se passe dans les années. Indiana Jones, il est en couleur, alors qu'à l'époque, le cinéma était en noir et blanc, je veux dire, vous voyez. Donc, je ne vois pas trop le rapport. Donc, c'est une question qui revient souvent. Donc, non, l'idée, ce n'est pas ça. L'idée, c'est de faire une image expressive, mais qui rappelle quand même le grain pellicule. J'ai beaucoup, beaucoup cherché. Alors ça, c'est un des délires que j'ai sur les objectifs. Donc j'ai trouvé un set d'objectifs qui me plaît, des objectifs des années 70 qui donnent une image... ça ne donne pas une image des années 70, mais ça casse le côté trop net des objectifs d'aujourd'hui qui sont très cliniques, très, très parfaits. Donc ça donne une image plus cinéma. Et j'ai trouvé les plugins qui me conviennent pour traiter les couleurs. Donc pour l'instant, le plan, c'est que... Quand je commence une scène, je commence par faire des photos argentiques du plateau avec les comédiens. Et ensuite, avec ces photos, ça me sert de modèle pour faire l'étalonnage après avec les images qui seront filmées en numérique. Donc, c'est ça l'idée, quoi. Donc, moi, j'espère avoir une image qui ressemble à un film en pellicule. Voilà. C'est un peu ce qu'on voit dans la vidéo que j'ai présentée sur Ulule. C'est un peu ce rendu-là qu'on aura, mais en beaucoup plus travaillé, parce que là, c'est pas vraiment éclairé, c'est filmé dans des bureaux comme ça, hein, ce sera on est dans cette vibe-là, quoi. Voilà.
Ouais. Donc, quelque part, pour essayer de rester fidèle au visuel aussi bien photo et vidéo qu'on avait à l'époque, quoi, en fait, finalement.
Non, pas vraiment, ouais.
Dans l'esprit, quoi. Je suis pas en train de dire que tu vas nous redonner les images telles qu'elles étaient, mais un petit peu avec cette.
Ouais, c'est ces, tu as raison,
ces,
en fait.
Mais... Ces aspérités qu'on avait.
Ouais, tu as raison, mais il n'y aura pas un côté vieille cassette sortie du grenier, quoi.
Non, ouais, j'ai pas dit ça. Ouais.
Ça me fait penser au fait que dans les souvenirs de jeux, par exemple, moi, quand je pense à un vieux jeu auquel j'ai pas joué depuis que je suis gamin, je me suis rendu compte en comparant avec les images actuelles que dans ma mémoire, c'est plus une version remasterisée, limite HD que j'ai. Donc, je sais pas si c'est un peu l'esprit que tu veux donner comme avec du matos d'aujourd'hui, quoi.
Je comprends tout à fait ce que tu ressens. Effectivement, on peut embellir. Moi, ça m'a fait ça avec Captain Flamme. Quand j'ai revu Captain Flamme, c'était comme ça. Dans ma tête, c'était Cowboy Bebop, hein, le truc. Ah ouais, putain. Captain Flamme, ça a vraiment vieilli, hein, vraiment. Alors que Cobra, pas du tout. Je ne sais pas pourquoi je parle de ça. Non, l'idée, c'est pas d'embellir cette époque. Hein. Ce qui serait chouette, c'est que quelqu'un qui ait connu l'époque comme vous, en voyant le film, se remémore des choses et se dise « Ah ouais, c'est vrai que c'était comme ça. Mais oui, j'avais oublié qu'on disait déplombé, qu'on disait pas piraté. Ah ouais, c'est vrai. » Et qu'on se retrouve toute cette ambiance d'époque et que quelqu'un qui n'a pas connu cette époque puisse la comprendre et se dire « Ça y est, j'ai pigé. Ok, c'est ça le délire. » Voilà. Ça, ce serait cool.
D'où les faux écrans de loading d'Étienne.
Ah oui, bah ça c'est le côté.
Ah oui.
Ouais, je pense que après c'est comme tous ces si quand tu places un Easter egg par exemple, ça va parler à notre génération, mais il faut pas non plus que ça empêche la compréhension de l'histoire et du film à des jeunes générations en fait. Mais je pense qu'on peut allier les deux en fait.
Oui, oh oui, je suis sûr, ouais. Oui, bah je suis désolé si vous l'avez déjà entendu cette anecdote, mais j'ai beaucoup expliqué le parallèle que je faisais avec Trainspotting. Et ce que je dis souvent, c'est qu'il n'y a pas besoin de se droguer pour comprendre le film. En fait. C'est pareil, là. Si le film est bien fait, on pourra ressentir les sensations de ce que c'est que de coder, que de débugger, le stress que ça peut être, la satisfaction que c'est qu'on arrive à accomplir quelque chose. Parce que on aura nos comédiens qui seront là pour le transmettre, il y aura l'histoire, le scénario et tout ça, et on devrait pouvoir le transmettre sans qu'il y ait besoin d'avoir des connaissances ou des prérequis, soit de l'époque, soit des références, soit des connaissances techniques. Normalement, c'est le but, quoi.
Je me disais que après une heure de papotage, ce serait peut-être le bon moment de parler du pitch du film, parce que j'aimerais bien t'emmener sur un point particulier.
Oui, je dois pitcher le film.
Sans spoiler.
Bien sûr.
C'est l'histoire d'un personnage qui s'appelle Thierry, qui est un jeune qui a un peu du mal avec le système scolaire. Il s'ennuie. Hein, et en fait, il préfère traîner avec ses potes et à copier des jeux. Il rentre très vite dans une petite équipe qui fait des démos. Et un jour, il décide, avec ses potes, de faire un jeu vidéo. Il se lance dans l'aventure de la création d'un jeu. Et donc, on suit cette équipe dans un film un peu qui sera un peu une chronique en fait et qui reprend un peu les poncifs, mais c'est un peu négatif de dire ça, les passages obligés peut-être de ce que vous avez peut-être déjà vu dans des films qui suivent des groupes de rock par exemple, avec des disputes, des trahisons, des amitiés qui se refont, qui se dénouent, mais au lieu d'être sur un groupe de rock, on est sur un groupe de créateurs quoi, qui veulent faire un jeu vidéo. Et on va suivre toutes leurs étapes, leurs doutes, comment ils vont se débrouiller pour surmonter certaines épreuves, comment ils vont faire pour vendre leur jeu à un éditeur, etc., etc. Voilà, c'est ça le pitch.
Et donc justement, l'éditeur en question, tu l'as déjà interviewé, si je ne me trompe pas.
Ah ben oui, moi je me suis dit j'aimerais trop pouvoir mettre Laurie Ciel dans le film, qui était un des éditeurs majeurs de cette époque-là. Il a disparu aujourd'hui, mais à l'époque il était, je crois, devant Infogrames et Ubisoft, il me semble. Il a été numéro un pendant quelques années. Et le fondateur de Laurie Ciel, qui est membre d'honneur de MO5 d'ailleurs, c'est Laurent Veil. Et j'ai demandé à Philippe, hein, le contact. Je lui ai dit, est-ce que tu aurais le contact de Laurent? J'aimerais lui présenter mon projet. Et donc Laurent a dit oui, ok, on peut en parler. Je suis allé le voir. Et il a accepté de répondre à toutes mes questions qui étaient très précises. Hein. C'est, par exemple, je lui disais, comment ça se passe quand quelqu'un vient vous proposer un jeu? Alors, il me disait, quand on me propose un jeu, je regardais si le jeu était comme ci ou comme ça. Je lui disais, non, je veux savoir comment ça se passe vraiment. À l'entrée, est-ce qu'il y a une salle d'attente? Est-ce qu'il y a une secrétaire qui les reçoit? Est-ce qu'il arrive directement dans votre bureau? Ensuite, combien de temps ils peuvent attendre? Est-ce que vous testiez le jeu devant lui ou est-ce que c'est quelqu'un d'autre qui s'en occupait? Et je voulais savoir exactement le chemin, quoi. Ce qui se passait quand on allait voir Laurent Veil de Laurie Ciel pour vendre un jeu. Et donc, il m'a répondu à tout. Donc, si vous voulez savoir comment ça se passe, dans un an, vous saurez, normalement.
Réponse dans le film.
Dans le film, bien sûr, oui.
Je profite de la parenthèse de Riciel, vu que je suis sur le jeu, là. Je bosse avec des placeholders. Alors, j'étais pas sûr, en fait, si scénaristiquement, il y aurait nommément Laurie Ciel dans le film, Alex, j'étais pas sûr. Mais comme je bosse avec je dois faire tous mes écrans pour faire la continuité du jeu, Samedi matin, j'étais en train de travailler à retravailler en pixel art le logo de Loriciel.
Le petit charme.
Ça m'a fait trop bizarre de faire ce logo. Parce qu'en plus, je te l'avais dit, Alex, le premier soft sur lequel j'ai fait du graphisme sur ordinateur, c'était Lorigraph. J'ai retrouvé le nom sur Amstrad CPC. Et je dis, non mais là il se passe un truc, je suis en train de, je dois être la dernière personne sur Terre qui retape le logo de Loriciel en pixel.
Ouais, bah, oui. Ah c'est génial, ouais, c'est génial, faudra envoyer ça à Laurent, lui montrer un petit peu. Donc je tiens au courant Laurent Veil un petit peu de l'avancée de la campagne, et on est censé se revoir après quoi, pour discuter encore, j'ai encore plein de questions, hein, c'est, voilà, donc on va se revoir bientôt normalement.
Et moi j'aime beaucoup l'histoire du jeu vidéo, et notamment des articles ou des livres sur l'histoire orale du jeu vidéo. Est-ce que par hasard, vu que tu l'as filmé pour le court-métrage de présentation, est-ce que par hasard tu aurais filmé ou enregistré l'intégralité de des entretiens avec lui?
Avec Laurent Veil?
Oui, Laurent Veil.
Oui, j'ai une heure et demie d'interview, et comme j'étais avec lui, j'ai posé plein de questions sur Loriciel en général. Il m'a parlé de ses premiers voyages au Japon, quand il bossait avec Hudson Soft, enfin, truc de fou, hein, quand ils ont vendu Squeak là-bas. Enfin, il y a de quoi faire. Ça pourrait faire un excellent bonus pour le Blu-ray. Peut-être que ça peut même faire un palier, on va voir.
Parce que là, c'est des choses qui sont maintenant précieuses, hein, C'est Florent, ah oui. Florent Gorge qui dit, je caricature, mais en gros, il faut en profiter pendant que les gens sont vivants pour les interviewer. Oui.
Laurent, il est encore jeune, hein. Il a commencé, il a fondé Loriciel à 18 ans, mais oui. il est encore très jeune. Ouais.
Ouais, c'est cool, ça c'est très très cool. Et Bruce, je te propose qu'on passe à la partie plus jeux vidéo du projet.
Ouais. Ouais, ouais. Ce que j'allais te proposer également.
Parfait. Étienne, oui. Tu as, quelles sont tes contraintes? Donc, tu nous dis que tu codes avec les contraintes de l'Atari ST, mais ouais, si j'ai bien compris, avec les histoires de délai du film, tu ne peux pas coder sur Atari ST.
C'est ça, c'est que... Alex voulait qu'on le fasse sur Atari ST, c'est moi qui lui ai dit non. Parce que c'est, je crois, hein, si je ne dis pas de bêtises, Alex, c'est probablement le jeu qu'on va le voir le plus, parce que c'est le jeu sur lequel travaille le personnage principal. Et du coup, Alex m'avait aussi évoqué des trucs peut-être dans... le jeu que je vais devoir que je développe là, avoir des moments légèrement narratifs qui pourraient être potentiellement exploités par la narration du film, c'est-à-dire peut-être un petit dialogue qui fait une référence à ce qui se passe dans le film ou des machins comme ça. Et c'est pour ça que je lui ai dit non pour cette raison. C'est, je dis, mais si tu as besoin que je te refasse des versions à toute vitesse, Si on fait sur ST, ça risque de rendre la machine beaucoup plus complexe. Et qui plus est, moi je ne suis pas, j'ai dit tout à l'heure, je suis plutôt graphiste au départ, et là je programme avec un outil qui simplifie, je programme avec des boîtes, etc. Enfin, c'est un langage simplifié. Mais si j'avais dû travailler avec un programmeur, du coup, parce que j'aurais pu faire ça... comme ça, j'aurais été dépendant de son rythme et j'aurais pas pu. Je préférais être autonome avec avec Simon, on a déjà fait Zorbi ensemble, donc le fait qu'il va faire les graphismes et on va avoir les idées des niveaux ensemble et tout ça, ça on sait faire. Et c'est une machine qui roule très bien, j'ai l'habitude. Et oui, j'avais surtout peur du côté des allers-retours compliqués, avec finalement un programmeur que je ne connaîtrais pas non plus. Et ça prend du temps d'apprendre à travailler des fois avec quelqu'un qu'on ne connaît pas, mais quelle que soit la personne, des fois, alors qu'avec Simon, ça roule. Hein. Je lui dis, non, pense à Awesome sur Amiga, et voilà, il aura la référence, il n'y aura pas à réfléchir trop longtemps. Donc ça, c'était la contrainte un peu aussi qui touche au narratif et tout. Et après, du coup, oui, le développement, là, j'ai Cyril Lambin qui m'a expliqué plein de trucs sur Atari ST, parce que moi, j'ai plus connu Amiga et les contraintes sont quand même plus fortes sur Atari ST. Là, je pense que je pète un peu la rame de l'Atari ST, hein, avec ce que j'ai déjà là. Mais mon but, c'est pas non plus de faire le jeu le plus réaliste du ST. Il y a aussi ça que je veux, c'est avoir quelque chose qui évoque plein de choses différentes et qui capture une époque et des esthétiques. Et aussi, dans la même idée du souvenir un peu dont tu parlais, du souvenir des jeux que tu avais, mais en version remaster, quoi. Quelque part, ce jeu, il sera peut-être la version entre le remaster mental et ce que ça aurait pu être. Et bon, moi, j'ai fait un stream où je racontais un peu aussi ces trucs-là. Et dans le chat, il y avait des développeurs ST qui étaient là parce que ils sont super motivés. C'est un peu intimidant, mais ça fait trop plaisir aussi. Et il semblait dire que ce qu'ils voyaient à l'écran, ils se sentaient capables de le faire. Donc, pour le moment, je suis dans des clous. Ça va.
Qui semble réaliste en tout cas.
Ça va. Et il s'avère que bon, il y a déjà des gens qui sont déter pour quand tu auras fini, tu nous fileras les graphes et on fera peut-être le portage. Bon, bah allez-y, je serai trop content, moi.
Oh oui. Excellent. Et Alex disait que on verrait différentes étapes du jeu, peut-être qu'avec l'environnement de programmation que tu as, c'est peut-être un peu plus facile. Je sais pas si c'est
exactement
tuning ou différents
sauvegardes. C'est ça, c'est exactement ce que j'ai pas dit aussi, c'est que bosser sur PC, ça me permet de travailler de manière un peu plus sale, entre guillemets. C'est-à-dire que je peux, j'ai besoin de cet effet, je vais le faire avec une image, même si je vais pas programmer des trucs complexes. Et aujourd'hui, on a des effets qu'on peut faire et ça va bien tourner. Voilà, parce que après, je suis quand même un monomaniaque. Hein, j'essaie de. Non, je vais pas faire trop d'étapes dans les animes. Je respecte le 16 couleurs parce que moi, je viens de cette culture du. Je te le disais hors caméra, moi j'étais démarré sur des jeux téléphone portable et il fallait être très carré. Sur Game Boy Advance aussi d'ailleurs.
Mais justement, sur le chat, il y a un certain Gordo Lexos qui dit qu'il a bossé avec toi sur des jeux mobiles qui devaient tenir sur
son... Voilà, Gordo Lexos, c'est Simon, c'est mon frère du coup. Ah. Donc, oui, on a connu ces trucs-là. Du coup, pour la partie graphique, ça c'est sûr, je peux faire le truc. Mais effectivement, travailler sur PC, ça permet de travailler plus salement et ça va permettre aussi de, comme tu as dit, si je veux lui faire une version où il n'y a plus de sprite, hop, je prends l'image, je la remplace, je mets des carrés à la place et hop, et voilà, ou juste je simule des fausses boîtes de collision ou des machins comme ça. Et ouais. Je fais le jeu de manière finie et après, je vais tout casser. je vais faire des décors tout foirés, etc. Et je vais faire version 1, version 2, version 3, version 4. Le jeu tournera aussi bien, mais juste, il n'y aura pas les graphismes. Là, il n'y a pas les décors. Là, il y aura toute cette partie-là à la fin que je ferai, comme ça. Ouais.
Est-ce qu'on a dit, j'en ai pas souvenance, mais est-ce qu'on a dit que le jeu sur Atari, la ST, c'était un shmup?
Ah non, c'est vrai qu'on n'a pas dit.
Il y a les images,
effectivement. C'est un shmup de joueurs. Ça, il m'avait demandé précisément que ça devait être un jeu de joueurs au départ. Donc, ouais.
Donc ça, c'est pour les besoins du film. C'est
ouais.
Que ce soit un shoot 'em up, c'était aussi pour les besoins du film. C'est dans le scénario, c'est ça?
Oui, ouais. Tout à fait, c'était la commande. Moi, je voulais d'ailleurs un shoot'em up vertical, mais il paraît que sur... un shoot'em up vertical, visiblement, c'est plus facile à coder, mais Étienne préfère les horizontaux parce qu'on voit, on voit mieux l'univers, on peut mieux développer un univers avec une ligne d'horizon, en fait, si je dis pas de bêtises.
Après, du coup, c'est plus facile à coder sur ST. Il faut préciser, c'est Cyril qui nous a dit ça. C'est ça se gère. C'est pour ça qu'un jeu comme Xenon 2 tourne mieux qu'un X-Out qui est pas fameux sur Atari ST, je sais plus pourquoi précisément tu voulais un shoot'em up, Alex. D'ailleurs, c'est vraiment parce que ça caractérise mieux ton perso, c'est ça?
C'est écrit comme ça depuis longtemps dans le scénario. Pourquoi j'ai choisi ça à ce moment-là? Je pense parce que le
c'est un des genres phares de l'époque.
C'est parce que oui, puis c'est un genre où il y a du challenge technique pour réussir quelque chose qui tourne bien, quoi. Comme ça fait partie de l'aventure de réussir quelque chose.
Un platformer, c'est encore plus dur, hein. Ça aurait pu être un platformer, mais
ça aurait pu être un platformer.
Moi, ça me va très bien. C'est un shoot'em up. La vérité, c'est que c'est plus facile à faire. Il y a moins de cas complexes à gérer, etc. Donc,
d'accord.
Voilà.
Mais il n'y a pas aussi un jeu de platformer qui est prévu?
Ah non.
Non, non, non.
Enfin, quand je dis platformer, il n'y a pas un jeu d'aventure plutôt.
Oui.
Et sur Amiga.
Oui. Sur Amiga, ce serait un jeu d'aventure. Ouais, tout à fait.
Ouais. Ouais.
Du coup, qui est moins demandant en ressources techniques, mais qui va, on va essayer de créer une belle ambiance, quelque chose de chouette au niveau image et son.
Et toujours dans ton petit court-métrage, on voit Julien Pirou qui dessine une sorte de plan quand on le voit travailler sur le jeu d'aventure. Des plans qui m'ont fait penser à ce qu'on pouvait trouver pour les vieux jeux d'aventure textuels. Je ne sais pas si ça va te remonter jusque-là ou c'est plus graphique quand même.
Pour l'instant, notre idée, ça peut encore changer, hein, mais le modèle un peu qu'on a, c'est un jeu un peu à la Mopi Island de l'Encore.
D'accord.
Donc, d'accord. Avec des écrans qui représentent ce qu'on voit dans le jeu. Et mais bon, avec un game design que Julien va choisir, mais qui sera peut-être un peu différent. Mais c'est un peu l'idée qu'on a pour le moment. Mais contrairement au jeu d'Étienne, qui est déjà bien avancé, pour ce jeu-là, on n'a encore rien du tout. C'est Cyril Lambin qui va le coder. Là, Cyril est en train de faire des tests sur Amiga pour voir si ses langages de programmation fonctionnent bien. Pour l'instant, on a rien du tout. Donc, ça peut encore changer. On doit se voir après le financement pour définir vraiment à quoi ça ressemblera.
Et moi, je précise, c'est ce que je t'ai déjà dit, Alex, sur un Discord. Moi, le jeu, j'avance dessus, mais la vérité, c'est que reskinner, refaire des trucs à la fin, ça, c'est le plus rapide. Parce que déjà, ce n'est pas un jeu où il y aura 1000 graphismes non plus, puisque c'est les contraintes de l'époque. Mais l'important pour moi, c'était d'avancer bien dedans, parce que là, je pourrais te parler, Alex, à un moment, vu que j'ai avancé. Je sais où on peut insérer du scénar, je sais où on peut insérer du dialogue. Donc il y a vraiment un moment où tu vas pouvoir toi-même te projeter dans le jeu et peut-être y mettre des trucs. Bon, là vraiment j'ai besoin de ça pour cette scène précisément, et là j'aurai les coudées franches une fois que le jeu sera bien avancé en fait.
Voilà. Cool, c'est chouette.
Et moi, si je puis me permettre, c'était quand même osé de faire un jeu dans le même film, un jeu avec sur Atari ST et un jeu sur Amiga, parce que va falloir que les deux camps enterrent la hache de guerre quand ils vont voir.
Moi, je parle pas à l'équipe Amiga. Je suis dans mon roleplay STiste. Alors que je viens de l'Amiga, hein, mais tant pis.
C'est ça qui est drôle, c'est que on demande à des créateurs de jeux qui savent faire du jeu vidéo de créer des jeux en étant eux-mêmes un peu comédiens, c'est-à-dire qu'ils doivent réfléchir à comment pensaient les créateurs de jeux à l'époque. Et avec leurs limitations, se dire, Julien, par exemple, il se dit, à l'époque, il y avait des erreurs qui étaient faites assez souvent, une erreur classique qui aujourd'hui est interdite, c'est de se retrouver à un endroit dans un jeu d'aventure, il manque un item, on ne peut pas passer la porte, mais on n'a pas non plus les possibilités de revenir pour aller chercher l'item. Ça ne se fait pas. pas, c'est un no-go, quoi. Et à l'époque, ça pouvait arriver. Donc, il réfléchit, peut-être pas à placer exactement ça, mais à faire quelques erreurs typiques de l'époque qu'auraient pu faire nos personnages. On réfléchit aussi ensemble aux références des personnages. Qu'est-ce qu'ils aimaient à l'époque? Qu'est-ce qu'ils regardaient au cinéma? Qu'est-ce qu'ils lisaient comme BD? Essayer de réfléchir à tout ça et de le mettre dans les jeux,
ouais. Ouais, tu veux dire que tu as tout l'univers pop culture qui vient alimenter tes personnages fictifs, quoi, en fait.
Ouais, bien. Il faut qu'ils soient crédibles, ouais, bien sûr.
Ouais. Ah, ça, c'est bien, c'est cool, ça.
Parce que moi, sur le jeu, là, comme j'ai fait les menus, etc., ça a été un truc bizarre d'essayer de réfléchir à une interface de navigation qui soit pas. Enfin, de s'enlever de la tête les habitudes d'aujourd'hui, quoi. Il y a des trucs qui sont assez naturels aujourd'hui. Et là, non, on va contrôler une sorte de curseur qui va pointer des boutons. Ça va être un peu rébarbatif, mais c'est fait exprès. Voilà. Il faut qu'il y ait un côté. Et c'est pas à la souris, c'est au joystick. Ouais.
C'est bizarre, quand même. J'imagine que. Enfin, toi qui es développeur, j'imagine qu'en 30 ans, les techniques de développement et de codage. Enfin, pas de codage proprement dit, c'est le langage, c'est le même, mais. Les techniques ont évolué.
Les techniques, oui, mais c'est aussi les philosophies de design qui ont changé. Oui. C'est ce que dit Alex sur les objets qu'on ne peut pas récupérer. Et du coup, ouais. on est softlock dans un jeu.
Ouais.
Moi, par exemple, j'ai mis quelques petites blagues dans le jeu avec des morts injustes ou des trucs très violents que tu n'avais pas prévu. Je dis bon, voilà, il y a déjà ça dans les tuyaux. J'en rajouterai peut-être un peu avec le temps, on verra. Mais c'est assez marrant d'essayer de s'imaginer de bah oui. Enfin, il y a une idée toute bête dans le truc que j'ai fait, c'est on peut choisir où on va dans le système solaire. Bon, on peut aller dans l'espace n'importe où. Bon, il y a rien. Mais on peut y aller. Et ce n'est pas une idée d'un... Enfin, les jeux ne feraient pas plus ça aujourd'hui. Il faut qu'ils soient tout le temps efficaces, là. Je me suis dit, non, mais c'est les gars qui font le jeu, là. C'est des gars qui ont lu Dune quand ils étaient jeunes et qui ont adoré Star Wars. Et ils ont l'occasion de faire un jeu où on va pouvoir se balader dans l'espace. Bon, on va se balader dans l'espace. Bon, c'est un shoot'em up, mais... Enfin, voilà, c'est...
Ouais.
Ouais, c'est génial. Et ton idée d'échange de ressources aussi, elle est super. Ça, c'est,
ouais,
c'est une idée un peu étrange qui aurait pu exister à l'époque.
Ouais, mais c'est, oui, parce que comme il est jouable à deux, entre les niveaux, les joueurs peuvent s'échanger. Mais en fait, c'est une idée qui je pense, est legit pour un jeu aussi moderne. En fait.
Ah ouais.
L'idée est bonne, mais c'est vrai que c'est une idée qui aurait pu exister à l'époque aussi. Enfin, voilà.
Mais qu'est-ce que je veux dire? Ouais, c'est vrai que avec le recul, tout ce qui est ouais, la direction artistique, pardon, tout le chara-design, c'est vrai que ça doit demander un effort, dire, ça doit pas être évident de se remettre dans le contexte.
C'est mon truc, c'est pour ça aussi que je pense que graphiquement, il y a encore des choses qui vont bouger. J'ai fait, la semaine dernière, j'ai fait un stream. Sur justement le fait de redesigner les personnages principaux. Alex avait envoyé une image, je ne sais pas si elle peut être montrée, mais j'avais fait un truc un peu trop japonais, quoi, dans l'esprit. Après, on s'est posé la question avec Alex de « Non, mais peut-être que le graphiste du jeu, il aura ces références-là, parce qu'il y avait déjà la PC Engine, il y avait déjà la NES, il y avait déjà des sprites dans cet esprit. » Mais c'était un peu trop... en plus d'être japonais, c'était un peu trop, entre guillemets, bien fait. Il y a une sorte de maladresse du pixel et un style européen qu'il faut retrouver. Et ça, ça vient. Enfin, voilà, j'ai grandi avec ce pixel-là et je l'adore. Mais j'ai travaillé. En exploitant un référentiel plus japonais. Du coup, j'ai pris des billets, quoi. Il faut que je m'enlève ces trucs-là progressivement. C'est vrai.
Justement, tous les deux, est-ce qu'il y a du boulot de recherche ou alors est-ce que c'est naturel? Moi, j'imagine qu'il y a du boulot de recherche quand même.
Ah, moi, je fais que je traîne sur Moby Game toute la journée à aller chercher tous les jeux. Alors, celui-là, tiens, je pourrais piquer cette idée. Évidemment, enfin, c'est un travail de copiste, réassimilation, etc. Après, c'est aussi la plupart des recherches que je fais, c'est juste j'ai besoin de me rafraîchir la mémoire sur des jeux que j'ai adorés en étant enfant. Donc je mets du Captain Blood, je mets du Awesome, je mets du Shadow of the Beast, je mets du et je mixe tout ça et voilà, ça fait un truc.
Et Alex, c'est pareil, je pense que tu ne fais pas appel qu'à tes souvenirs. Il y a un boulot de recherche derrière pour être vraiment le plus réaliste possible.
Tu as tout à fait raison, il faut se méfier de ses souvenirs. Surtout que moi, j'ai vécu mon parcours et qui n'est pas forcément le même que les autres. Donc, il faut faire attention à ne pas croire que ce qu'on a vécu, c'est forcément l'expérience générale que tout le monde a vécue à l'époque. Et c'est pour ça que je rencontre beaucoup de personnes. Là, récemment, on a eu un chouette moment. On a rencontré Rez, qui est un demo maker qui a connu cette époque héroïque et qui nous a sorti des tonnes d'anecdotes excellentes que j'ai bien sûr notées dans ma tête et qu'on va essayer de glisser forcément. Et là, il nous envoie plein de documents, des photos, des vidéos de l'époque qui vont nous servir. Donc, c'est pas le seul. J'ai pu interviewer aussi Mr. B de Overlanders, si je dis pas de bêtises. Oui, c'est Overlanders. J'ai l'intention de rencontrer d'autres personnes parce que depuis que la campagne est lancée, j'ai beaucoup de personnes en privé qui m'envoient des messages en me disant « Moi, j'ai connu l'époque et si vous avez besoin qu'on en parle, je suis disponible. » Donc oui, je vais essayer de...
Justement, dans le chat, Dr. JVTech dit exactement ça. Si jamais tu as besoin des histoires de vie de sa chaîne.
Et avec plaisir. Docteur JVC, envoie-moi un message en privé sur Ulule. Et hop, je te mets dans la liste des gens que je dois rencontrer, du coup.
Ouais, parce que voilà. C'est vrai que Nico, il fait beaucoup d'interviews, en fait, de toute cette époque-là avec des développeurs, des éditeurs. Voilà, c'est un parcours de vie, en fait. Et ça fait des bons sujets de live, en fait. Donc, c'est une bonne idée de pouvoir faire ça, ouais.
Et justement, parmi les gens qui t'aident ou qui sont susceptibles de t'aider, il y a les gens de MO5.
Complètement.
Donc, oui. on a vu David, notre vice-président, dans notre présentation ou dans le debug mode. Donc déjà, on peut aider sur les LAN parties, organiser des LAN parties, parce que ce sera dans le film, c'est ça ?
Oui, il y a plusieurs noms, coding party, démo party, voire copy party, pour les rassemblements les moins légaux. Ouais. effectivement, c'est des rassemblements qui regroupent des dizaines, parfois peut-être plus de 100 personnes, peut-être 200, 300, où tout le monde s'installe avec sa machine, son ordinateur, dans un même endroit. Parfois, c'est souvent d'ailleurs dans soit des salles des fêtes, soit des stades couverts, comme un stade de basket, par exemple, qui est reconverti pour l'occasion. Et donc, pour faire ça, on a besoin de machines, et en plus des machines qui marchent. J'ai demandé, avant de lancer la campagne, je suis venu vous voir et j'ai dit, est-ce qu'on peut faire ça ensemble pour être sûr de pouvoir le faire ? Parce que c'est sûr que si on a des grandes ambitions visuelles de reconstruire ces moments-là, mais qu'on n'a pas les moyens ensuite de le faire, c'est un problème. Et donc, effectivement, MO5 a répondu présent. Et avec votre complicité, on pourra recréer ces moments incroyables. Voilà.
Merci, à l'image. Ça va être génial. Et il y a nous aussi, on a dans la tête de recréer des chambres des années 70, 80, 90. Avec tout le matériel le contextuel, en fait, un peu comme on a déjà fait à plus petite échelle dans nos expos. Je ne sais pas si David t'en a parlé, mais on peut aussi...
Non, mais c'est intéressant. Oui. Forcément, c'est quelque chose auquel on va devoir se confronter aussi. Donc oui, parlons-en. Moi, je prends toute l'aide possible. Évidemment, on aura besoin de... peut-être pas seulement des machines, mais quelques accessoires pour aller autour, pour créer une ambiance, ouais. Tout à fait.
Ouais, je pense qu'il n'y aura pas de soucis.
Ouais.
Ouais, c'est génial.
Avec la Super 5 du papa qu'emmène le PC du gamin en LAN party.
On aura besoin de véhicules. Les véhicules, ça se trouve encore. Les fringues, ça va être pas trop dur. Mais ce qui va être difficile, c'est j'ai une scène dans une cabine téléphonique à pièces. Ça, c'est un peu plus dur. Mais il paraît que ça se retrouve, ça se loue. Donc, il faudra voir combien ça coûte et si on peut se le permettre. Mais ouais, normalement, j'ai une cabine téléphonique.
Je spoil rien, mais il y a aussi une scène peut-être dans un train. Je me demande le train.
Un train corail. Le train, si les plans d'extérieur peuvent éventuellement être faits en 3D, parce que tout ce qui est machine, en 3D, ça marche très bien. Ça se voit pas, quoi. Et par contre, pour l'intérieur, oui, il faudra peut-être voir. Mais je crois que la SNCF propose ce genre de service.
J'en ai parlé à des potes et je crois qu'on avait vérifié. Il y a peut-être un musée avec. C'est possible. Je ne sais plus où il est, mais.
Ça doit exister. Déjà, je sais que la RATP, ils ont une station de métro qui est dédiée au cinéma. Et je crois que la SNCF propose aussi ce genre de choses. On va se faire un plaisir de se renseigner dès que toute la campagne sera terminée. Ça fait partie des trucs qu'on doit faire. Ouais. Je crois qu'Olivier, qui était chez vous pendant longtemps, et connaît très bien tout ça, justement.
D'accord. Écoute, si on peut aider, on sera là. Mmh. On sera là. Écoute, Bruce, je vois que l'heure passe. Est-ce que tu as d'autres questions?
Non, c'est vrai qu'on arrive à la fin parce que ça fait, ça fait combien de temps maintenant ? 1h22 qu'on est en direct. Si, plutôt avant de se quitter, on en a discuté en off. Est-ce qu'on pourrait avoir un petit mot sur ce qui se passe en ce moment dans l'actualité pour la chaîne de télé Game One?
Oui, tout à fait, qui va bientôt fermer.
Parce que Alex, tu nous disais tout à l'heure en off que tu voulais nous dire un petit mot sur le sujet.
Oui, c'est très triste ce qui se passe. Je pense que tout le monde est à peu près au courant parmi les personnes qui regardent, mais pour rappeler, je crois que c'est, comment ça s'appelle, Skydance, un grand groupe de médias américains racheté par Paramount, et Paramount était propriétaire de Viacom qui est lui-même propriétaire de MTV et de Game One. Je m'y perds, je ne suis pas un spécialiste, mais en gros, du coup, il y a quelqu'un dans ses bureaux à Skydance qui a dit « C'est quoi ça, Game One ? C'est quoi J1 ? Allez hop, dehors !» Et donc, ils vont fermer les chaînes, comme ça, alors que c'est des chaînes qui, visiblement, étaient rentables, donc rapportaient de l'argent à leur patron. Donc, c'est vraiment injuste. C'est pas cool, c'est dégueulasse pour les équipes qui bossaient sur ces programmes, vu qu'il y avait encore il y avait encore des choses à faire, il y avait un public qui était là, qui suivait, et comme on en parlait, c'est effectivement la fin d'une époque, puisque c'est la fin du jeu vidéo à la télé, de l'actu jeu vidéo à la télévision, quoi. Il y aura plus grand chose après, quoi.
Triste nouvelle pour tout le monde, mais on espère, parce qu'on est plusieurs à espérer, qu'ils arriveront à garder confiance et puis à nous proposer une alternative. Je suis confiant là-dessus, mais je sais que toute l'équipe de Team Game One, et a envie de nous proposer l'après Game One, on va dire.
Ouais, et on leur souhaite vraiment plein de courage, plein de bonnes choses. Et je sais pas si je me trompe ou pas, mais il me semble qu'on aura un live spécial Game One sur notre stand pendant la Paris Games Week.
Alors, il me semble aussi, j'ai plus le planning en tête, mais on aura un live Game One sur le stand MO5 de la Paris Games Week. Et on aura même Marcus qui sera là de mémoire, si je ne me trompe pas, jeudi et samedi pour dédicacer son dernier livre. En fait, Marcus payé pour jouer.
Nickel. Messieurs, je vais encore une fois vous remercier.
Merci à vous.
D'être venu, d'avoir parlé de tout ça. Ça a l'air d'être un projet super. Donc, un petit disclaimer que j'aurais dû faire au début. J'ai bien sûr backé le film.
Ouais.
Donc, ça m'a parlé.
Pareil.
Immédiatement.
Et est-ce qu'on a atteint 90 là dans la durée?
Ah, oui. Non.
89, là, il manque, j'ai peut-être pas.
Il manque 75, non, plus que ça, pardon.
Il manque
88 915.
Ouais. Bon, allez, aussi au moins 89, là, 75 euros, ça peut se trouver, là.
Donc, bientôt.
Ah, merci, merci beaucoup à vous d'avoir organisé ce live. C'était vraiment un plaisir de parler avec vous de ce projet et aussi de parler de notre future collaboration dessus. Je pense que ça va être des moments assez inoubliables et le moment de faire vraiment des belles images pour le film, mais aussi des belles images des machines en elles-mêmes quoi, pour le futur. Ouais.
Ça va être magnifique. Donc,
Excuse-moi, Seb, mais je voulais dire que c'est un moyen de. Quelque part de préservation, parce que même si c'est une fiction, en étant au plus proche de la réalité, ça donne une idée de comment ça pouvait se passer à l'époque. Donc, quelque part, pour moi, c'est un petit peu de la préservation, de dire, voilà, ça...
Mais
ça,
oui, c'est un film historique. Oui,
exactement. Il faut pas oublier que MO5 a commencé ses prémices sur Internet par Philippe qui décrivait la façon dont il fallait charger des logiciels et des jeux sur les ordinateurs à l'époque.
Ouais, oui, il documentait ça déjà.
Ouais. C'est vrai. Il avait son petit musée virtuel avant de créer MO5. Ouais. Mmh. Ouais. Eh bien, merci à vous tous. Un petit mot d'affin peut-être chacun.
Oui, où est-ce qu'on peut vous retrouver? Donc, Alex, outre le projet démo, on va comme je le disais au début, on va te retrouver chez nous, sur notre stand à la Paris Games Week, le 1er novembre, c'est ça? C'est le samedi, je crois.
Oui, un sujet fascinant que vous avez proposé, c'est quel est le meilleur moyen de filmer, de montrer les images de jeu en vidéo. Donc, on a plein de choses à dire et notre ami Cyril Lambin sera là aussi pour en parler. Et puis moi, mon dernier mot, après tout ce qu'on a dit, c'est évidemment un petit mot d'encouragement aux copains de Game One. Moi, c'est une chaîne, c'est là où j'ai commencé. Hein, donc, j'ai encore des amis, Pierre Boulet, Marcus, Mathias et plein d'autres qui sont là-bas, qui se prennent ça de plein fouet. Et c'est vraiment dur pour le moral. Donc, on pense beaucoup à eux.
Voilà. Ouais, force à vous.
Carrément. Et toi, Étienne, tu nous disais que tu travailles en ce moment sur ton jeu qui s'appelle Eclipse the Cat.
C'est ça, ouais. Bon, après, là, je fais le jeu pour Alex, hein, voilà, on peut me trouver. Moi, je suis sur Blue Sky, vous pouvez me trouver, je parle des trucs que je fais. Puis, des fois, je suis sur Twitch, c'est Zolotrex, voilà. Bah, je dirais un peu pareil qu'Alex, hein, force à Game One, mais moi je vais faire ce que Alex n'ose pas faire, c'est donner de l'argent. Voilà, allez.
La campagne est toujours là.
Voilà. Vous parlez autour de vous, au moins, faites, répandez la bonne parole.
Et recevez un merveilleux Blu-ray du film dans un an, c'est génial.
Ouais,
ça. Juste pour info, il y a Dr. Givetech qui a mis quelque chose dans la cagnotte.
Merci à tout le monde à tous ceux qui ont participé pendant ce live à la cagnotte, justement. Merci, Dr. JVTech.
Oui, merci beaucoup.
Bravo.
Oh, JVTech Pro a fait la contrepartie. Merci beaucoup. C'est super cool. Merci bien.
Et ouais, c'est sur cette magnifique nouvelle qu'on va se quitter. Merci à tous.
Merci.
Et puis à très bientôt.
Ouais, on vous dit à bientôt. Merci à tous. Merci au chat, aux auditeurs. Ciao, ciao.
Ciao.